une fois pour toutes. Une émission proposée par la Concertation des Églises Chrétiennes de Liège.
Amis auditeurs, bonjour. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un visiteur de marque, le pasteur Paulus van Schalkwyk, qui nous vient d'Afrique du Sud, qui est pasteur de la Uniting Reformed Church in Southern Africa, et le pasteur Bruce Denis, qui va servir d'interprète pour cette émission. Paulus van Schalkwyk, qui nous vient d'Afrique du Sud, l'église réformée unifiante d'Afrique australe. Il est aussi le modérateur de l'un des 7 synodes régionaux situés au Northern Cape. Et nous avons donc un visiteur qui vient de très loin pour nous parler de la situation dans son pays. Paulus van Schalkwyk, bonjour. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la possibilité de rencontrer un frère d'Afrique du Sud. Et chez nous, à part depuis la dernière Coupe du monde de football, l'Afrique du Sud était principalement connue par ses vins, ses fruits, et puis aussi pour l'apartheid et Nelson Mandela. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette période et sur le rôle que les églises chrétiennes jouèrent dans ce processus?
Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je vous remercie de cette opportunité de me présenter à la radio ici à Liège. Je peux vous expliquer un peu juste avant cette époque que l'apartheid s'est effondré en Afrique du Sud. C'était très difficile pour plusieurs classes de gens en Afrique du Sud de vivre, de survivre à cette époque. En particulier pour les Noirs et les Colorés, à cette époque, c'était très difficile à vivre sous la loi apartheid. Nous avions des lois qui nous séparaient des Blancs. Hormis les Blancs, les autres ne pouvaient pas se déplacer ou s'améliorer dans la société. Alors ces séparations ont causé beaucoup de tracas, beaucoup de misère en fait pour les Noirs. C'était aussi une lutte pour l'Église parce que l'Église doit représenter un peu la communauté en général. En plus parce qu'en fait l'apartheid a eu ses origines dans l'Église, alors c'est à l'Église de redresser ces injustices.
Comment est-ce que l'Église a pu donner ou être à l'origine d'une telle situation?
Oui, c'est vrai, mais en fait, en 1857, à cette époque-là, l'Église hollandaise réformée se plaignait d'avoir la communion avec les Noirs. Ils ne voulaient pas le faire. Alors, c'est à cette époque-là que cette idée a eu ses origines.
Est-ce que cela signifie qu'avant cette date-là, ils communiaient ensemble et qu'on a changé, ou bien qu'avant, ils ne le faisaient pas non plus?
Mais alors oui, avant ce temps-là, c'était vrai. Tout le monde était ensemble. Toute l'Église réformée se rassemblait ensemble. Mais après 1881, je crois, l'Église réformée a été divisée dans 4 branches. Pour expliquer un petit peu, en fait, à l'époque, en fait, c'était Hélène Bruchac qui était la responsable. C'était elle qui a pu un peu amorcer ce mouvement UDF pour mettre la pression sur le gouvernement de changer les affaires, mais à cette époque, en fait, on avait même des pasteurs dans le gouvernement qui étaient censés rédiger des justifications, trouver des justifications pour soutenir l'idée d'apartheid. Alors, à chaque fois qu'il voulait faire les broches d'une loi, on avait appel au pasteur pour trouver la justification biblique pour cette loi.
J'aimerais poser quand même une question. Donc, cet apartheid avait une justification biblique, en tout cas, a été justifié par certains théologiens bibliquement. Il y a toujours moyen de faire dire au texte ce qu'on a envie de leur faire dire, ça on le sait tous. Qu'est-ce qui va être le déclencheur de ce changement, de cette transformation qui va amener à la fin de l'apartheid?
Alors, oui, c'était en 1990, en fait, que le président de Klerk libérait les organismes de libération, ont permis aux organisations de libération de pouvoir s'exprimer librement. Beaucoup de liberté, voilà. Alors, mais en fait, c'était à cette époque qu'ils ont pu commencer à se communiquer ouvertement et atteindre le public en général.
Nous faisons une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous écoutons Yannick Noah qui nous chante « La voix des sages ». Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme, au micro Vincent Tonon, Paulus Van Skalkwijk et Bruce Dennis pour la traduction. Alors nous avons évoqué la situation pendant la période de l'apartheid et puis nous sommes arrivés, nous devons aller évidemment très très vite pendant cette courte émission, nous sommes arrivés à la période où l'apartheid est en train d'être fortement ébranlé et va bientôt être abrogé. Alors quelles sont les grandes étapes, mais très rapidement, quelles sont les grandes étapes de la fin de l'apartheid et en particulier, quel est le rôle des églises protestantes dans cette fin de l'apartheid?
Alors la première, c'était la libération de Nelson Mandela de la prison. C'est lui qui a jeté les bases pour la paix et la réconciliation. Alors, la possibilité d'avoir communication entre ces organismes de libération, dont l'UDF, ça renforçait en fait le mouvement de libération, de un peu détruire l'apartheid. Voilà, alors, comme ça, on a pu établir la plateforme pour la discussion et la communication et pour ouvertement discuter avec les politiciens, le grand public, les possibilités pour l'avenir.
Voilà.
Alors, l'autre chose pour l'Église, en fait, c'était qu'on a commencé le processus de développer un quatrième confession de foi pour l'Église réformée.
Confession of faith.
Ce processus a commencé en 1982, mais c'était un processus assez long, mais aussi important pour développer ce dialogue, le renforcement de ces idées dans l'Église. Alors comme ça, l'Église avait maintenant l'opportunité de faire partie de la transformation par cette confession de Bellard.
La confession de Bellard, je rappelle, dans l'émission précédente, nous avons eu l'occasion d'entendre, j'ai présenté la confession de Bellard et j'ai eu l'occasion de la lire complètement. Donc les auditeurs qui ont écouté l'émission précédente savent un petit peu ce que contient cette confession, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté cette émission, quel est le point fort ou le point le plus marquant de cette confession de Bellard?
Il y a trois thèmes primordiaux dans cette confession de foi.
The first one, unity.
Dans l'unité.
The second one is reconciliation.
La réconciliation.
And the other one is justice.
La justice.
Yeah. And these three.
Il fallait en fait redresser les erreurs de l'Église du passé. Alors maintenant, cette confession du passé et du présent et de l'avenir de l'Église. Vu que l'Église réformée hollandaise, en fait, c'était moteur de cette fausseté d'interprétation de la Bible, il fallait absolument que maintenant, que l'emphase soit sur l'unification des branches, des tendances de l'Église pour réformer vraiment l'Église dans le sens de le réunir. Alors, malgré les injustices du passé, nous avons besoin de remédier ces injustices et de se réconcilier. Même si l'Église réformée hollandaise ne se joint pas encore à cette confession, nous, comme l'Église unifiante, réformée unifiante, veut bien continuer ce processus de pouvoir aller de l'avant avec la justice parce qu'en fait, le problème, c'est que malgré le fait que nous avons eu depuis assez longtemps dans le gouvernement, dans la politique, une amélioration, on a quand même plus de 50% de notre population qui habite dans la pauvreté.
J'allais justement poser la question, avec un tel idéal, quand on entend la confession de foi de Bellard, et un tel idéal assez élevé, on imagine qu'une Église ne peut qu'entrer dans la démarche. Elle ne peut que reconnaître que la voie de l'Évangile est bien celle-là. Alors, j'allais poser la question, comment est-ce que cette confession de foi de Bellard a été reçue par les différentes Églises? Et je viens d'entendre donc que manifestement, toutes les Églises n'ont pas réussi à entrer dans cette dynamique, ou bien sont encore en train de devoir cheminer pour envisager d'entrer. Quel est le plus gros obstacle à leur entrée dans cette dynamique?
opinion,
le premier obstacle, en fait, c'est que l'Église Dutch Reformed, c'est plutôt une Église des Blancs et une Église avec beaucoup de moyens, assez riche. Et quoique c'est plus ou moins la peur qu'ils vont perdre de l'argent si on accueille les autres Églises très, très pauvres.
Donc, si je comprends bien, ils pourraient entrer dans la vision et adhérer à la confession de Bellart, y compris reconnaître les erreurs du passé et de l'apartheid, mais la raison qui empêche serait une raison économique.
Yes, I really do think that.
Oui, en fait, c'est la raison primordiale. Je crois qu'ils ne veulent pas. C'est une raison économique. Ils ne veulent pas partager leur richesse. Et la vérité, c'est que la richesse contient, en fait, cette Église. L'Église réformée des Blancs est toujours composée des gens les plus riches en Afrique du Sud. Alors, la deuxième raison pour laquelle ils ne veulent pas s'associer avec cette confession, c'est que la confession de Bellart est très, très certaine sur le point de la culpabilité de ces gens qui ont commis les injustices. Alors, ils ne veulent pas faire face aux injustices qu'ils ont déjà commises. Alors, c'est une question de ne pas vouloir faire face à leur culpabilité. Nous ne sommes pas coupables parce qu'en fait, c'était nos pères et nos ancêtres qui ont commis les fautes. Ce n'est plus à nous de confesser nos péchés. Ça ne nous touche pas. Par contre, ils jouissent de biens de ces ancêtres, de leur héritage. Et comme ça, nous disons qu'il faut quand même confesser les péchés parce qu'en fait, c'est à cause de ces péchés qu'ils jouissent de cette richesse matérielle.
C'est évidemment toute la question de l'héritage de la colonisation. Ça, c'est un problème qui se pose dans beaucoup de pays. Nous sommes les héritiers de tout ce que la colonisation nous a apporté. Et il faut arriver à gérer aussi le fait que nous sommes les héritiers des responsabilités, puisqu'on bénéficie des héritages. Nous faisons une petite pause musicale en écoutant Owen the Saint. Alors, nous avons abordé jusqu'à présent la question de l'époque de l'apartheid, la difficulté que représente le fait que cela a été justifié bibliquement par des torsions de texte, mais enfin, il faut remettre ça dans son contexte. Et puis, la période de la fin de l'apartheid et de la difficile démarche des églises pour entrer dans cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, on se rend compte que l'apartheid a été abrogé depuis bien des années, mais les séquelles demeurent toujours très présentes, très actives. Alors, quelles sont les difficultés les plus intenses que l'Église réformée unifiante d'Afrique du Sud connaît pour le moment dans la continuité de ce processus?
Having the confession, as I said.
Alors, la confession se constitue et dans un cadeau, évidemment, c'est un cadeau, mais aussi une grande responsabilité. C'est ça le défi pour nous, de pouvoir faire une démarche pour accomplir la tâche qui est devant nous. Parce qu'il y a tellement de difficultés et même si on a ce cadeau de cette confession qui nous guide, nous avons très difficile à trouver les moyens financiers nécessaires pour accomplir et pour mettre en œuvre en fait les idées de cette confession.
Yes, I would also say that the confession helps us.
Cette confession nous donne une opportunité de faire face aux membres de l'Église, aux leaders de l'Église, mais aussi de pouvoir s'exprimer auprès du gouvernement. Parce qu'en fait, c'est quand même à la base un gouvernement démocratique et nous avons comme ça le droit. Et avec cette confession de foi, nous avons le moyen de pouvoir s'exprimer auprès de l'Église en général, l'Église universelle, et aussi pour s'exprimer au gouvernement et pour faire face à leur responsabilité aussi d'affronter la pauvreté et les injustices, de créer de la justice restaurative pour l'Église et pour la communauté.
Et quelle est la réaction du gouvernement par rapport à cette approche?
There's not much coming from the government.
Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, le gouvernement ne répond pas grand-chose, mais quand même, parce qu'à l'époque, la dernière fois, le gouvernement était un gouvernement religieux, de base religieuse, mais maintenant, c'est un gouvernement démocratique qui n'ont pas de lien avec la religion. Alors, on se fait entendre très difficilement. C'est vrai que le gouvernement démocratique a déjà apporté beaucoup d'améliorations dans la société, mais quand même, on a encore beaucoup de chemin à faire parce que la plupart de la société est très pauvre. Et il y a encore beaucoup de gens, la majorité des gens qui vivent dans l'injustice.
Mais
maintenant, finalement, le gouvernement commence à se rendre compte que les églises ont vraiment un rôle à jouer et qu'ils auront quelque chose à apporter pour éradiquer la pauvreté et pour éliminer la justice. Alors, c'est maintenant que, finalement, le gouvernement commence à faire appel aux églises de venir à leur aide pour régler ces problèmes.
Nous arrivons tout doucement vers la fin de cette très intéressante émission. Alors, nous sommes ici dans un studio d'une radio chrétienne et d'une radio catholique. Alors, je pense que c'est quand même intéressant aussi pour nos auditeurs d'entendre comment, dans tout ce processus post-apartheid, où les églises sont fortement marquées par cette histoire, quelles sont les relations avec les autres églises? On connaît l'église anglicane avec Mgr Desmond Tutu, mais l'église catholique peut-être moins. Et quelles sont les relations entre l'église réformée unifiante d'Afrique du Sud et, par exemple, l'église catholique?
In South Africa, yes,
la réponse est que le rôle des églises à cette époque était primordial, en fait, crucial d'avoir un esprit œcuménique très fort. En fait, toutes les confessions et les catholiques et les orthodoxes et même les musulmans se sont réunis en force contre l'apartheid. Et cette collaboration était très importante pour pouvoir réussir.
Nous ne pouvons donc que prier pour que ce lien œcuménique continue à se renforcer, puisque ça va aussi dans le sens de la confession de foi de Bellard. Nous arrivons tout doucement, vraiment maintenant, à la fin de cette émission. Paulus van Schalkwijk était ici en Belgique pour un séjour, et est en Belgique pour un séjour de 3 mois. Peut-être, qu'est-ce qui le marque ou le frappe le plus depuis qu'il est en Belgique, et est-ce qu'il a un message qu'il a envie de laisser aux auditeurs?
Yes, what most strike me.
Les choses qui m'ont beaucoup remarqué ici, c'est que, en fait, il y avait un accueil sur la fête de la Coupe mondiale 2010. Tout le monde le connaît bien, mais quand même, ici, il a trouvé remarquable qu'il y a toujours cette division entre les francophones et les néerlandophones. Il ne comprend pas pourquoi, avec notre évolution, ça peut toujours exister. Et en plus, il a trouvé qu'il y a aussi de la pauvreté ici en Europe et en Belgique, plutôt sur la côté wallonne qu'au nord, mais c'est vraiment hors de comparaison par rapport à la pauvreté en Afrique. Pour lui, c'est un privilège d'avoir cet échange pastoral entre l'Europe et l'Afrique du Sud. Et il se réjouit en fait de trouver en Europe une attitude beaucoup plus ouverte, très amicale et très, très accueillante. Mais en plus, il trouve c'est aussi notre façon de voir les choses, notre mentalité, qu'il n'a jamais trouvé en Afrique du Sud parmi les Blancs. En fait, c'est d'avoir vraiment l'envie, une passion même, d'être à l'écoute. Ils se sont vraiment écoutés, entendus par les Blancs, que ce qui ne ressent pas en Afrique du Sud.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Nous ne pouvons qu'espérer que cette curiosité, ce désir de communier, de communiquer, de dialoguer, puisse croître en Afrique du Sud. Amis auditeurs, je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, un nouveau moment en votre compagnie.